11h30.
Tendance première.
Véronique Thiberghien.
Comme je vous le disais, nous recevons aujourd'hui Philippe Prel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychothérapeute et l'auteur aujourd'hui de Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi. C'est paru aux éditions Albin Michel. Alors, on va revenir sur cette notion du moi que finalement, je me suis rendu compte en le lisant aussi, on maîtrise assez mal, on connaît assez mal.
Oui.
Et mieux la connaître, c'est aussi pouvoir finalement rétablir un certain équilibre quand on fait face à des problématiques, des traumatismes, des violences, quand on n'est plus en phase finalement avec ce moi. Il y a peut-être une chose importante à définir, enfin il y a trois mots importants à définir je pense quand même, avant de commencer à parler de l'ouvrage, et vous le faites dans l'ouvrage de toute façon, c'est le moi, le monde intérieur. Et le soi, qui vont être ces trois notions avec lesquelles on va jouer.
D'accord, tout à fait. Le moi, en fait, c'est une invention formidable qui est faite par l'enfant.
Ouais.
C'est une construction psychique qu'il élabore de manière à pouvoir se projeter d'abord dans ses jeux. Quand il est pilote d'hélicoptère, c'est lui qui est dans l'hélicoptère.
Ouais.
Donc c'est bien moi qui le projette dedans, mais il va ensuite, grâce à ce moi, pouvoir se projeter dans l'avenir, découvrir un jour qu'il sera mortel, mais aussi dans le passé, et se construire des souvenirs. Et c'est pour ça que les souvenirs apparaissent aux alentours de 4-5 ans. Il pourra se projeter aussi dans l'esprit des autres, donc se tester à l'humour, au mensonge, et puis se regarder lui-même, s'auto-observer. Donc ce moi est formidable, et à partir du moment où cette invention est formidable, et à partir du moment où l'enfant devient capable de se projeter dans le passé et dans l'avenir, il sort du présent absolu qui était son vécu avant. Et dès lors qu'il a cette richesse-là, eh bien, se crée son monde intérieur,
ouais,
avec tout ce qu'il a vécu avant, tous ses projets. Et notre monde intérieur est fondamentalement infini parce qu'il y a tout ce que nous avons pu vivre, rencontrer, croiser, nos villes, nos livres, etc.
Ce présent absolu, il est important parce que il m'a beaucoup fasciné, parce qu'il me fait penser évidemment à cette injonction aujourd'hui qu'on nous serine souvent, à tort ou à raison, pour en reparler, mais d'être présent. Présent justement à soi, d'ailleurs, on dit. Hein,
oui.
On ne dit pas être présent à moi, on dit être présent à soi. On devrait peut-être dire être présent à moi.
Oui.
Ce présent absolu qui nous différencie quelque part des animaux,
oui,
qui, eux, ont cette capacité à cette présence absolue. Et vous parlez notamment de cette expérience avec le chimpanzé,
oui,
qui est capable, sur un écran d'ordinateur, de repérer une suite de chiffres mises de manière aléatoire, qui lui apparaissent une fraction de seconde, qui sont ensuite cachés, et lui arrive à les remettre, oui, dans l'ordre. Et à pouvoir les retrouver exactement à l'endroit où ils se trouvaient. Chose que l'homme est incapable de faire parce qu'il n'a pas cette présence absolue.
Oui, en fait, c'est vrai que l'animal et le petit enfant, sur ce point-là, ils sont pareils, vivent au présent absolu. Et dans ce présent absolu, ils ont une attention qui est intense et très large.
Ouais.
Donc, instantanément, ils voient les choses qui sont importantes. Tandis que nous, dans ce même présent, nous avons, grâce à notre conscience, à notre moi, une interprétation de ce que nous vivons. Ça nous prend de la bande passante, entre guillemets,
ouais,
et de ce fait, on a moins d'attention au présent. On n'est plus vraiment dans le présent absolu. Et du reste, dans notre vie de tous les jours, et c'est un peu notre difficulté, nous passons beaucoup trop de temps à nous projeter dans le passé et dans le futur, et c'est dans ces deux univers que nous croisons beaucoup d'angoisses, de phobies, de choses qui ne nous font pas du bien. Donc, avoir un bon équilibre avec plus de moments présents, intenses et heureux est vraiment essentiel.
Alors, du coup, ça m'a déculpabilisé quand même, ce que vous expliquez aussi par rapport à ce présent absolu, c'est que,
oui,
ne pas l'avoir chez l'être humain, et l'enfant, le petit enfant, le père, cette capacité,
oui,
de présence absolue, c'est nous permettre de nous projeter dans le futur.
Oui.
Et nous permettre de nous projeter dans le futur, c'est pouvoir aussi faire en sorte que nous innovions.
Oui.
Nous sommes plus créatifs.
Oui.
Nous arrivons à améliorer finalement une forme de quotidien.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment le miracle de l'humanité. C'est qu'à partir du moment où nous accédons à la conscience grâce à ce moi, que nous pouvons projeter dans le futur, le passé, eh bien, nous créons ce monde intérieur. Et dans ce monde intérieur, on va pouvoir faire toutes nos inventions, toutes nos créations, transformer, regarder autour de nous. Il n'y a rien de naturel.
Ouais.
Rien, tout a été transformé. Et ça, c'est l'humanité. Et ça nous permet tous les progrès. Et ce qui est, me semble toujours extraordinaire, c'est qu'on se projette tellement bien dans l'avenir que l'on a créé l'éducation qui est le propre de l'humanité. Et car nous savons qu'il est important de former nos enfants, nos jeunes adultes, pour des métiers de demain, pour des rôles, etc. Et cette aptitude au progrès, eh bien, c'est vraiment ce que Rousseau considérait comme étant ce qui nous distingue vraiment de l'animal.
Ce monde intérieur que nous construisons au départ de ce moi, c'est finalement une illusion, une fiction du réel.
Oui, tout à fait, parce que c'est une fiction du réel parce que nous réinterprétons tout notre vécu. C'est une des conséquences de l'accès à la conscience. Mais concrètement, quand nous vivons un épisode qui peut être heureux ou malheureux, par exemple, si je suis deuxième dans une course, je vois très bien que suivant l'interprétation que j'en fais, je peux être soit très heureux, c'est formidable, j'ai réussi un temps extraordinaire, et puis j'ai une médaille d'argent, et puis de l'autre côté, ah zut, c'est la catastrophe, j'ai 5 ans que je m'entraîne, je l'ai raté. Enfin, donc on peut avoir deux vécus, un de bonheur, un de malheur, avec le même événement. Donc vous voyez que notre interprétation va être clé, et la culture nous donne toute une bibliothèque d'interprétation, ce que j'appelle des conditionnements latents, je serai heureux si j'ai ça ou ça, comme mon père, comme ma mère, mes enfants autour de moi. Donc ça, c'est toute une façon d'interpréter le monde, mais nous avons aussi cette aptitude à inventer de nouvelles façons d'être heureux.
Il y a un équilibre fragile entre le moi et le monde intérieur.
Oui, parce qu'en fait, d'un côté, c'est vrai que le moi peut générer beaucoup de choses positives en nous. Justement, dès lors que nous sommes capables de comprendre qu'il y a ce moi intérieur et que ce moi intérieur, finalement, nous construit le film de notre vie. Ouais. Et que nous pouvons être acteurs de notre vie et donc influencer ce qui nous arrive. Donc c'est ça, fondamentalement, ce qui est positif. Alors, en revanche, ce qui est entre guillemets négatif, c'est que dans ce monde intérieur, on va pouvoir croiser beaucoup de pensées qui ne servent plus à rien, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, enfin, toutes sortes de pensées, et qui vont nous pourrir la vie. Aussi des peurs, comme la peur de la mort, ou la paresse, ou des choses comme ça. Ça fait partie de notre monde intérieur. Et ça va générer en nous des inconforts psychologiques. Mais ça, c'est banal. Ce que je veux dire, nous avons tous des inconforts psychologiques. Mais simplement, certains vont vivre avec leur inconfort et continuer à faire ce qui leur plaît, et plus on se concentre sur ce qui nous plaît, plus l'inconfort, lui, il passe en arrière-plan. Soit certains vont être incapables de vivre ces inconforts psychologiques et vont éviter les situations qui génèrent ces inconforts. Et l'évitement, c'est le début des problèmes psychologiques.
Le soi dans tout ça.
Oui. Le soi, en fait, c'est un mot que j'ai utilisé pour illustrer l'inconscient cognitif. L'inconscient cognitif, eh bien, c'est tout ce qui est dans notre cerveau fonctionne en arrière-plan de notre conscience.
Oui.
Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre conscience a une mémoire de travail qui est très limitée, de l'ordre de 5-7 mots. Par exemple, quand nous commençons une phrase, nous ne savons pas comment nous allons la terminer. Et si nous cherchons à savoir comment on va la terminer, eh bien, on perd le flow oratoire. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une intention de dire une chose, nous commençons la phrase, et c'est notre inconscient cognitif, notre soi, qui va la terminer. Mais c'est aussi lui qui va, quand on avance une jambe, il avance l'autre, et ainsi de suite, qui va faire nos mouvements, qui va tous nos automatismes. Et donc, c'est notre assistant personnel qui s'enrichit constamment avec tout ce que nous faisons, ce que nous apprenons, et ce soit entre parenthèses l'animal aussi là, il a aussi son inconscient cognitif qu'il développe avec toutes ses aptitudes. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre parce que ça a deux conséquences. La première, quelquefois on peut le voir avec quelques petits bugs parce que votre inconscient cognitif a toujours envie d'aller plus vite que la musique pour ne rien rater. Alors par exemple quand vous lavez les dents, ben il sait que vous allez ouvrir le robinet, pof, il va ouvrir le robinet à l'avance. Bon, ben ça, c'est des petits bugs, c'est pas bien gênant, mais ça nous montre un peu comment nous fonctionnons. Mais la deuxième, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de situations, notre inconscient cognitif va nous amener des rôles.
Oui.
C'est-à-dire, je suis devant le banquier, devant mon conjoint, devant mes enfants, je vais pas avoir les mêmes rôles, ben, je vais pas me poser la question, mais tiens, au fait, comment je vais me comporter, etc. C'est automatique. Lui, il est en bibliothèque tous les rôles et il me les met en place immédiatement. Alors ça, c'est très pratique, mais il y a des jours où on se retrouve avec un rôle qui ne nous va pas du tout.
Oui.
Et dans ces cas-là, il est précieux d'en avoir conscience pour pouvoir justement changer le rôle, dire non, celui-là, je ne veux pas, et maintenant, je vais jouer ce rôle-là comme ça. Et si on joue ce rôle-là comme ça, eh bien, notre inconscient cognitif apprend que maintenant, dans cette situation-là, nous voulons ce rôle-là.
Est-ce que d'une certaine façon, on peut dire qu'il soulage, quand les choses sont bien équilibrées, il soulage le « moi » ?
Ah oui, absolument, c'est un binôme, ils sont inséparables. Il y en a un qui fonctionne toujours, c'est le soi, parce que toutes nos pensées, nos mouvements sont en œuvre grâce à lui, et nous avons le moi qui est comme un cavalier sur le cheval avec son interprétation. et qui peut être positive ou négative, erronée, ou voilà, tout est possible. Mais c'est ce tandem qui fonctionne ensemble tout le temps.
On va, maintenant qu'on a bien défini les choses, évidemment parcourir cet ouvrage, voir ce qui se passe quand ça va bien. Parce que y a toute la deuxième partie de votre ouvrage, c'est ça. C'est quand ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe en réalité. Et puis quand ça dysfonctionne, quand cet équilibre n'est plus présent, à quoi c'est dû et surtout ce qu'on peut mettre en place. On va se retrouver dans un instant, juste après une page de pub.
Tendance première.
Le docteur Philippe Prel est avec nous. Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi, parce que c'est vrai qu'on peut être les deux.
Oui.
Même en cas d'équilibre.
Oui, absolument. Oui, oui, c'est ce que je vous disais. Nous pouvons vivre des inconforts psychologiques et après, c'est toute notre façon d'accepter ces inconforts et de choisir ce qui est important dans notre vie qui va être vraiment déterminant.
C'est ça. Cette course au bonheur qu'on nous inflige un peu aujourd'hui, c'est une course à cet équilibrage, mais une espèce d'équilibrage unique alors que cet équilibrage, il est à l'identité et à l'image de chacun.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement quand même un aspect culturel. Il y a un aspect, par exemple, avec la psychologie positive, on a extrêmement étudié quels sont les trucs, entre guillemets, qui nous permettent d'être plus heureux.
Ouais.
Parmi ceux-ci, effectivement, sourire, tout simplement. Parce que quand je souris, je suis plus heureux. Quand je suis plus heureux, je souris. C'est une mécanique simple, mais qui fonctionne. Il y a aussi être optimiste. Et plus ça a été archi démontré, ouais. Les optimistes réussissent mieux leur vie de manière globale, sur tous les plans. Aussi bien de couple, professionnel, amical, etc. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut apprendre, comme par exemple aussi de revivre régulièrement dans sa journée les moments qui ont été heureux, pour se repasser les bons films. Ça, c'est effectivement un truc du bonheur qui est absolument formidable. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté psychologie positive qui est clé, mais il y a aussi toute la culture du bonheur que l'on va apprendre avec nos parents. Parce qu'il faut bien voir que dans la plupart des cas, il y a des choses, nous savons si elles nous plaisent ou pas, si c'est sucré, si c'est chaud, etc. Mais vous voyez, c'est très simple. Mais très vite, comment savoir qu'un jean trop serré, ça peut être bien, qu'un maquillage, ça peut être bien, c'est pas instantané. Et donc, c'est avec la culture de mes parents que je vais comprendre que manger une huître, oui, ça peut être bon, etc. Et j'ai donc toute des cadres de bonheur qui vont se mettre en place. Alors certains, c'est ce que j'appelle des conditionnements latents, vont être très positifs, mais dans certains cas, je vais être malheureux si je ne les ai pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, tout est une question d'interprétation avec nous.
Il y a une forme de conditionnement au bonheur dans l'éducation et ce bonheur culturel qui ne nous convient pas toujours et nous amène parfois à une forme de dysfonctionnement, mais qui nous montre aussi et surtout à quel point ce contenter de ce conditionnement nous empêche de savoir exactement ce qui nous rend heureux.
Oui.
Et que souvent, on ne sait pas ce qui nous rend vraiment heureux.
Oui, c'est ça, on ne le sait pas et c'est une vraie question. Alors c'est vrai qu'avoir des conditionnements latents nous simplifie nos choix, mais quelquefois la vie nous amène d'autres solutions et dans ce cas-là, on est obligé de se reposer les questions clés. Alors quand on est arrivé à ce stade, et ça arrive souvent en ce moment malheureusement avec la situation que nous traversons, il est clé de comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, qu'est-ce qui a du sens. Et souvent, quand on fait ce chemin-là, on arrive à comprendre ce qui est vraiment essentiel et vers quoi il est important pour nous d'aller.
Est-ce que ce n'est pas un des aspects positifs de cette crise sanitaire, de nous être confrontés à cette idée de devoir faire la différence entre un bonheur culturel et un bonheur qu'on a en soi réellement, et cette recherche de sens?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on se rend compte que dans tous les aspects de la vie, il y a un côté positif, un côté négatif. Alors, le côté négatif du gris du Covid...
Il y en a plein, on en parle tout le temps. Donc.
Bon, alors, c'est vrai. Mais en tout cas, s'il y a quand même une chose qui est importante sur le plan psychologique, c'est que c'est comme quand on a mal au dos, on a envie de rester au lit, de se vautrer dans le canapé, et puis on sait très bien que pour le mal de dos, il faut faire l'inverse. Il faut se lever, marcher. Et bien, sur le plan psychologique, c'est pareil. Quand on est dans le spleen, on a envie de rester au lit, de se vautrer, de surfer, de zapper, et voilà. Et puis, notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc au contraire, il faut sortir, faire du sport et faire ce qui nous plaît. Et sinon, effectivement, le côté positif de cette situation, c'est qu'elle remet en cause nos vies, ce qui n'arrive pas souvent.
Ouais.
Et sincèrement, moi, je vois Quand est-ce qu'on voit des gens remettre en cause leur vie? Bien souvent, dans mon cabinet, ce sont, par exemple, une femme qui vient d'avoir un cancer du sein, elle a 50 ans, elle se dit « mais au fait, ma vie, qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Et franchement, un cancer, c'est beaucoup plus grave. Et donc, avoir un moment où on peut se dire « oui, bon, ma vie est en mode pause, qu'est-ce qui compte pour moi maintenant et comment je veux la continuer ?» Ben oui, c'est une chance.
Cette quête du bonheur, hein, qui... C'est une quête normale et naturelle.
Oui.
Vous dites, alors c'est clair qu'aujourd'hui on a beaucoup d'injonctions, mais finalement c'est quelque chose de très naturel parce que cette quête du bonheur, c'est cette quête de l'équilibrage permanent que l'on a en soi. Sauf qu'il est permanent et que nous on a l'impression que cette quête du bonheur, c'est une espèce de tenter, projeter dans le futur, parfois inatteignable. Mais finalement c'est ça.
Ah oui, tout à fait. Je ne connais pas de gens qui ont une vocation intrinsèque à être malheureux. Il y a une recherche. Nous sommes fondamentalement faits pour être heureux.
Oui.
Il y a même des études qui ont été faites en entreprise, en psychologie positive, montrant que dès lors que les gens étaient heureux, tout marchait mieux. Donc il y a une relation bonheur-réussite qui est vraiment innée à notre espèce. Donc oui, c'est une tendance naturelle et ça vaut le coup d'en prendre conscience et d'y consacrer du temps.
Et quand vous parlez du bonheur, vous parlez des monstres.
Oui.
À un moment donné. Et vous vous posez la question, que d'une question que beaucoup se posent, est-ce qu'on peut être un monstre et être heureux de l'être ?
Ben oui, dès lors qu'il s'agit d'une interprétation, parce que tout moment heureux peut être interprété comme bon ou comme mauvais, eh bien oui, un monstre peut très bien interpréter que ce qu'il fait de mal, entre guillemets, lui procure du plaisir. L'humanité permet ce genre d'aberration, entre guillemets, oui.
Donc on ne peut pas dire que chez un monstre, il y a une forme de dysfonctionnement entre le moi, son monde intérieur, le soi, et qu'il faut chercher à déterminer ce déséquilibre pour
Alors, disons que fondamentalement, pendant longtemps dans ma vie, j'ai cru que la conscience était le summum de l'humanité.
Oui.
Et puis un jour, je me suis dit, mais au fait, même le plus abruti, le plus crétin, le plus méchant peut faire des enfants conscients. Donc, c'est qu'est-ce qu'il leur a transmis pour être conscient ? C'est pas sa méchanceté. Donc, c'est bien autre chose. Eh bien, oui, la conscience, c'est un bonus pour l'humanité, mais c'est pas le summum. Le summum, c'est ce que l'on fait de beau dans notre monde intérieur. Et si quelqu'un est malheureusement devenu un monstre parce qu'il a fait quelque chose de laid dans son monde intérieur, ben pour moi, sincèrement, je le plains.
Quand ça dysfonctionne et que ça ne marche plus, qu'il n'y a plus d'équilibre et qu'il faut rechercher, en tout cas, essayer d'atteindre une forme d'équilibre, c'est marrant parce que la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce de la souffrance ou de la douleur ? Et vous dites, on confond les deux.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là encore, c'est une question d'interprétation. Quand j'ai une douleur, j'ai des messages neuronaux qui remontent et j'ai trois niveaux de neurones qui vont le filtrer.
C'est ça.
Ce qui nous permet de vivre sans sentir beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que chez nous, tout ce filtrage est enrichi de notre vécu du passé. Donc, nos souvenirs de douleurs identiques, et ça peut aggraver notre vécu douloureux, mais aussi de l'avenir, est-ce que cette douleur va continuer, va augmenter ? Et donc, dans mon livre, je cite l'exemple où j'allais à la fête de l'école avec mes enfants, il y en avait un devant, un siège devant et un sur le siège derrière, je pédalais vite, puis bon, on est tombé, ils n'ont rien eu, moi je croyais non plus, j'ai pris le vélo sur l'épaule, on a couru jusqu'à l'école, là c'était la fête, j'ai pris une coupe avec les autres parents, et puis un parent qui me dit « Tiens, c'est bizarre, ton bras, il est tordu. » Effectivement, je m'étais cassé le coude, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Et quand je m'en suis rendu compte, là, je me suis projeté dans le futur, et là, la douleur est arrivée. Voilà, c'est ça. Donc oui, et c'est ce qui explique pourquoi nous pouvons faire des anesthésies sous hypnose, qu'on fait une opération de la carotide à quelqu'un et qu'on lui dit « Écoutez, vous allez vous concentrer sur cette feuille blanche et rentrer tout votre esprit dedans et vous laisser aller dedans. » Eh bien, mon esprit va c'est ce qu'il va faire. Et de ce fait, il va être complètement au présent et il ne va plus se projeter ni dans cette douleur du futur ni celle du passé.
C'est pour ça qu'on parle plutôt de souffrance psychique et jamais de douleur psychique.
Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque.
Quand ça dysfonctionne, encore faut-il essayer de bien comprendre d'où vient ce dysfonctionnement. Et nous avons tendance, parfois avec l'aide de notre monde intérieur d'ailleurs, à tomber dans des pièges d'interprétation. Et il faut sortir de ces pièges d'interprétation.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces pièges, finalement, j'en fais la synthèse, mais d'abord, il y a la peur de mourir, qui est une réalité. Quand l'enfant découvre qu'il est mortel, entre 5 et 7 ans, ça génère de l'épouvante. Certains vont faire des cauchemars, certains vont plus vouloir grandir quand on les traite de grands et ça les panique. Voilà. Mais dans ce cas-là, je précise tout de suite, la bonne réponse, quand on a compris que c'est ça, c'est de leur dire qu'on meurt le jour où on a fini de vivre, c'est dans très longtemps. Donc pour eux, il n'y a pas de souci, il faut dégager l'avenir. Mais cette peur, elle reste présente dans toute notre vie. Alors pour la meilleure façon de passer cette peur, c'est de nous engager vers ce qui nous dépasse. C'est aider les autres, la nation, la religion, la famille. Enfin, tout ce qui nous dépasse nous fait finalement, entre guillemets, oublier notre mort. Mais nous avons aussi d'autres pièges, et c'est nos productions psychiques. Oui. Parce que finalement, notre moi est une production psychique qui nous a permis de nous développer dans le passé et le futur. Donc ça, c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, nous avons aussi beaucoup d'autres productions psychiques et qui ne sont pas toujours positives. Alors ça peut être des pensées comme « je suis nul, j'y arriverai jamais »,« je suis triste, je suis irrécupérable », etc. Enfin, toutes ces pensées négatives, quand elles nous assaillent, peuvent vraiment nous rendre malheureux et nous empêcher d'agir parce qu'elles génèrent un inconfort psychologique très très important. Et puis on a parlé du piège de la paresse dans lequel on peut tomber facilement dès qu'on est dans le spleen. Voilà, donc tous ces pièges sont effectivement intéressants à connaître parce que ce qui nous rend fondamentalement heureux, c'est de nous impliquer pleinement à 100% dans ce qui nous plaît. Et quand on fait ça, on évite clairement tous les pièges dont on vient de parler.
Et que vous nous invitez à mieux comprendre aussi dans votre ouvrage. Oui. Ils sont très bien explicités et la manière dont ils prennent vie aussi dans notre psychisme est très très bien expliquée. C'est un langage d'ailleurs très vulgarisé dans votre ouvrage. Oui. Vous parlez beaucoup de vous aussi, de votre propre expérience et je trouve que ça apporte une touche très humaine.